Le Festival des Divinités Noires du 25 au 28 octobre à Anéo avec RFI. Plus d'infos sur RFI.fr. Les visiteurs du jour. Anne-Cécile Bras.
Et bienvenue chez les visiteurs du jour. Nous continuons notre semaine spéciale environnement à l'occasion de la fin du Grenelle français, ce grand forum de réflexion pour que la France agisse enfin en matière d'écologie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de produits toxiques qui nous entourent. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais leurs effets sont dévastateurs sur notre santé. C'est ce que nous expliquerons nos invités. Mais pour garder le moral, Anne-Claire Bulliard nous donnera les clés d'un indicateur économique du bonheur.
À partir des conceptions du bonheur que l'on trouve dans l'histoire de la philosophie, on peut chercher si les critères mis en avant par les différents philosophes peuvent être traduits en chiffres. Et dans certains cas, c'est possible.
Mais oui, c'est possible, donc on y reviendra tout à l'heure. Puis nous irons en Angleterre, prendre des nouvelles de l'Alliance française de Manchester et au Kyrgyzstan, dans la vallée de Maïloussou, une véritable bombe à retardement. Bienvenue chez les visiteurs.
Sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve, la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais.
Les innocents dans les visiteurs du jour. Bonjour Bérangère Cagnat.
Bonjour.
Alors, dans Courrier International de cette semaine, vous proposez un article sur la déferlante steampunk ou l'art de transformer son ordinateur en machine à vapeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le steampunk ?
Alors, le steampunk, en fait, je pense qu'on peut dire déjà qu'on peut traduire ça en français par futur à vapeur. Donc, le steampunk est au départ un sous-genre de la littérature de science-fiction obsédé par le 19e siècle. Et en fait, à partir donc, c'était donc un sous-genre de littérature, et c'est devenu quelque chose d'un peu plus réel depuis qu'une poignée d'inventeurs fous se sont mis à fabriquer des objets steampunk. Par exemple, des ordinateurs portables avec des vieilles touches de machines à écrire ou encore des robots qui fonctionnent à la vapeur.
Alors, il y a quelques grandes figures, hein, justement, dans ce mouvement.
Oui, tout à fait. Donc là c'est l'article qu'on propose est un article du Boston Globe qui nous raconte donc ce qu'est le steampunk et qui nous donne quelques pistes et notamment quelques noms d'artistes. Alors parmi ceux-ci, il y a beaucoup d'Américains, évidemment, et il y en a deux qui sont très, très prolifiques. L'un qui s'appelle Data Mencer et l'autre qui s'appelle Funslat, et tous deux donc fabriquent des peut-être pas des milliers, mais des centaines d'objets absolument farfelus avec un design rétro. Et c'est vraiment très amusant, mais c'est vrai qu'il faut voir les photos qui vont avec. Hein.
Alors, certes, des Américains, mais ils s'inspirent quand même de Jules Verne aussi. Hein.
Alors, ils s'inspirent de Jules Verne, en effet. Alors, ça, c'est pour le côté littérature. Et ils s'inspirent aussi beaucoup des dessins animés japonais, en fait, où il y a ce mélange un peu de futur et de rétro. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'influence dans le steampunk.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une philosophie. Hein. C'est un mouvement qui s'inscrit contre le tout technologique ambiant, on va dire, qui est plutôt standardisé et qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, c'est un peu ça, c'est ce qu'explique l'article, c'est un peu une rébellion contre l'iPhone, quoi, contre les bijoux technologiques d'aujourd'hui, contre la production de masse high-tech. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est rendre un peu d'individualité aux objets, d'en faire des objets plus qui sont aussi pertinents pour leur fonction technologique, mais aussi pour leur décoration, pour leur présence physique, on va dire. Donc c'est vraiment, il y a un aspect de rébellion comme ça. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça le steampunk, avec le mot punk dedans, le mot rébellion.
Alors on n'a pas fini d'en entendre parler de ce mouvement, hein, parce qu'il se développe fortement, il y a des revues, il y a beaucoup de choses qui tournent autour.
Et oui, il y a depuis cette année, en effet, il y a une revue consacrée au steampunk et qui s'appelle Steampunk, qui est une revue américaine. Il y a aussi de plus en plus de livres de littérature steampunk qui sortent sur le marché. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis 2 ans, donc, ces inventeurs fous lancent de plus en plus d'objets et ils vont sur l'internet, évidemment, ils publient des photos de leurs objets, ils sont en contact avec d'autres inventeurs et tout ça, ça fait une émulation. Donc en effet, on n'a pas fini d'entendre parler du steampunk.
Merci Bérangère Cagna. Pour en savoir plus, évidemment, vous pouvez retrouver cet article et bien d'autres dans le Courrier International de cette semaine.
Pour nous écrire, visiteurs au pluriel @rfi.fr. We know.
Keava de Suzanne Vega. Partons maintenant pour la vallée de Maïloussou au Kyrgyzstan, située à 4000 km de Moscou. C'est sans doute la plus polluée de la planète et c'est une véritable bombe à retardement. On va en parler avec nos invités, Camille Magnard et Mathilde Goanec. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous revenez de cette vallée. Alors vous avez publié un article dans Terra Economica sur ce lieu incroyable hein, où dorment quand même sous terre 2 millions de tonnes de déchets d'uranium. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Camille par exemple, il faut bien commencer par l'un des deux, comment on en est arrivé là?
Ces déchets d'uranium, ils sont là tout simplement parce qu'à partir de 1946, donc dans les conséquences directes de ce qui a pu se passer dans le Pacifique avec les bombes atomiques américaines de Hiroshima, de Nagasaki, les soviétiques ont décidé de mettre un coup d'accélérateur à leur campagne de développement de leurs bombes atomiques à eux et ont cherché dans les années qui ont suivi, a trouvé des gisements très importants d'uranium en URSS, et c'est à Maïloussou, donc dans cette vallée à 4000 km de Moscou, dans le sud du Kyrgyzstan, qu'ils ont trouvé un gisement qui leur a paru suffisant pour leurs ambitions complètement monstrueuses.
Et donc en 1946, ils ont ouvert une mine qu'ils ont abandonnée 16 ans plus tard.
Voilà, cette mine a été ouverte, donc c'est elle qui a créé l'existence de cette ville. Elle a été une zone secrète complètement fermée où donc des mines ont été développées un peu partout dans la vallée. Il y a eu une extraction très importante qui s'est développée et qui a duré jusqu'en 1962. Date à laquelle l'usine a été complètement fermée parce qu'on avait trouvé d'autres gisements plus importants et plus faciles à exploiter au Kazakhstan.
Donc en gros, les soviétiques ont tout laissé sur place et en 1991, le Kyrgyzstan devient indépendant et là, la situation sanitaire de la vallée s'aggrave.
Oui, parce que pendant l'exploitation de la mine par les soviétiques, ils ont bien fait les choses, entre guillemets. Il y avait des militaires, des barrières qui protégeaient les sites de déchets d'uranium.
Donc la population ne pouvait pas y accéder.
La population ne pouvait pas y accéder, bien sûr, il y avait des problèmes, mais comme tout était classé secret défense, c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir des informations sur ce qui s'est passé pendant cette période. Mais en tout cas, en 1991, quand le Kyrgyzstan devient indépendant, il n'a plus les moyens d'assurer l'infrastructure mise en place par les soviétiques qui était plus ou moins performante. Donc les maladies se sont développées parce que l'accès au site s'est développé.
Oui, très clairement, les grillages ont été éventrés, les gens ont commencé à pénétrer sur le site et là, ils ont commencé à être contaminés.
Les animaux ont pu aller sur les sites, les gens ont pu aller eux-mêmes sur les sites d'uranium. Les sites sont, ce sont des prairies en fait, où l'uranium, les déchets d'uranium sont enterrés à quelques mètres sous terre. Donc c'est quand même très potentiellement dangereux. Et les sites sont en plus situés au bord d'une rivière, donc l'eau elle-même a été contaminée parce que les systèmes de défense qui avaient été mis en place pendant l'Union soviétique ont été détériorés, abandonnés, etc.
Donc les maladies qui apparaissent sont de quel genre?
Ce sont des maladies qui touchent particulièrement les femmes enceintes, beaucoup de fausses couches. On a des nombres complètement incroyables de fausses couches dans la région. Aussi bien sûr des cancers, des problèmes de thyroïde qui sont assez visibles dans la population et un taux de malformation à la naissance des enfants qui est aussi qui inquiète au plus haut point les rares scientifiques de la région qui commencent à s'intéresser à tout ça.
Alors comme si ça ne suffisait pas, la vallée a été victime en 1962 d'un deuxième désastre écologique, on peut dire, hein, avec l'implantation d'une immense usine de fabrication d'ampoules.
L'usine d'ampoules en elle-même n'était pas un désastre écologique, mais elle a rejeté pendant une quarantaine d'années des ampoules défectueuses dans une vallée secondaire de Maïloussou. Et ces ampoules étaient constituées à partir d'un filament de nickel et il y a 5 ou 6 ans, des gens ont découvert que ces filaments de nickel pouvaient être intéressants à la revente. Donc les gens se sont massés sur cette décharge d'ampoule, cette décharge de verre pilé, et ont commencé à chercher le minuscule filament de nickel qui est situé à l'intérieur des ampoules. Et malheureusement, c'est une catastrophe sanitaire, écologique et économique en plus pour Maïloussou.
Oui, parce que le nickel qui se vend, j'ai lu dans votre article, 17 euros le kilo, donc il y a une véritable chasse au trésor pour avoir ces petits filaments, c'est mauvais pour la santé.
Oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une région qui est sinistrée socialement. Il y a très peu d'emplois. Les gens sont donc dans le besoin de trouver un revenu très rapidement. Et ce nickel est venu à ce moment-là comme un Eldorado, comme une nouvelle ruée vers l'or. Les gens se sont rués.
Qui l'achète?
Ce sont... alors après... il faut voir qu'il y a tout un trafic derrière. Donc les personnes qui ont, à un moment donné, trouvé cette idée de venir récolter le nickel, ont acheté les terrains, ont organisé le traitement du nickel et son acheminement vers Bishkek pour ensuite être vendu vers la Chine. Donc c'est tout un réseau qui s'est organisé, tout un trafic. Donc voilà, la Chine achète, mais ça fait vivre tout un paquet de trafiquants et de personnes qui organisent ce trafic-là.
Oui, Mathilde. Et le danger, c'est que donc cette décharge s'apparente à une immense décharge de verre pilé. Donc les gens marchent sur ce verre, les enfants travaillent sur ce verre, les femmes, les enfants, les familles, pendant les vacances scolaires notamment. Et ils respirent de la poussière de verre pilé et aussi, dans les moulins qui séparent le nickel et le verre, aspirent une poussière de verre extrêmement nocive, notamment chez les jeunes enfants. Ils sont nombreux, vraiment très nombreux sur le site.
Et est-ce que là aussi, il y a des déchets radioactifs ?
Il y a à proximité, en effet, puisqu'il y en a un peu partout, enfin, on a plus d'une trentaine de sites sur toute la vallée de Maïlousou, à proximité, en effet, on trouve des sites d'uranium. Mais bon, c'est pas un problème principal, vu qu'il y a quand même une rivière entre les deux, donc on ne peut pas mettre les deux vraiment en parallèle. Mais à l'échelle de la vallée entière, en effet, il y a eu vraiment une superposition des deux problèmes. Ouais.
Alors la Banque mondiale et la communauté internationale commencent quand même à s'intéresser à cette vallée qui devient une véritable bombe à retardement dans la zone quand même la plus peuplée d'Asie centrale, puisque en plus c'est une zone qui peut être sujette aux tremblements de terre.
Alors ça devient un peu technique, mais en fait la vallée de Maïlousou est encaissée, elle est bordée de montagnes, et un pan de montagne risque de s'écrouler dans la rivière, parce que la région tout entière est sujette aux tremblements de terre, aux glissements de terrain. Bref, elle est un peu maudite.
Ouais,
et donc
compris,
ce pan de montagne risque de tomber dans la rivière, de former une retenue d'eau qui amènerait l'eau à couvrir l'ensemble des sites de déchets d'uranium. Cette retenue, par la force des eaux, finirait par lâcher et par rejoindre le grand fleuve Sir Daria, qui est le grand fleuve de la vallée du Fergana, et ça créerait, si ça arrivait, une pollution régionale dans une vallée qui est à cheval sur trois pays. Donc on comprend l'ampleur de la catastrophe, et c'est pas pour tout de suite, mais si ça arrive, effectivement, ça serait terrible pour la vallée.
Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signes quand même de, on disait, la Banque mondiale ou la communauté internationale qui s'intéresse à cette vallée ? Est-ce qu'il y a de l'espoir
depuis
quand
2004,
même, après ce tableau terrible ?
C'est toujours le problème de l'intervention de ce genre d'organisation internationale. Depuis 2004, il y a un intérêt qui a été créé par l'OSCE, notamment sur cette zone, sur ce scénario catastrophe qui pourrait entraîner cette catastrophe régionale. Il y a 12 millions de dollars qui ont été mobilisés pour cette cause et qui se mettent en place progressivement. Il y a des travaux de stabilisation de cette zone qui menace de s'effondrer, des campagnes qui sont menées auprès de la population pour organiser l'évacuation en cas de déclenchement donc du scénario, en cas de glissement de terrain massif. Mais pour les habitants, c'est vrai que c'est difficile de sentir vraiment le concret de cette action, et les gens ont toujours l'impression de voir débarquer chez eux des centaines et des centaines d'experts, des nouveaux rapports qui s'empilent sur des tables, et finalement les choses pour eux ne bougent pas parce que on prépare un petit peu cette situation d'urgence, mais dans la vie des gens, les maladies, par exemple le problème des ampoules, ça n'est pas du tout abordé.
Alors je disais, vous en revenez de cette vallée, hein, vous y étiez il y a 3 semaines, vous avez vécu 1 an dans ce pays-là, donc vous avez bien rencontré la population. Est-ce que eux ont conscience quand même des dangers qu'ils courent au quotidien ?
Les habitants de Maïlousou c'est très difficile d'avoir une vraie discussion avec eux parce qu'ils sont lassés de ces visites incessantes des organisations internationales, des ONG qui leur posent des questions sur les maladies, etc. Ils gardent espoir que effectivement ça va s'arranger, mais c'est un peu vu comme une fatalité. L'uranium, puis les ampoules, les problèmes liés aux ampoules, c'est un peu la fatalité qui s'abat sur Maïlousou et l'impuissance des pouvoirs publics à réagir.
Bon, bah écoutez, au moins on en aura parlé sur RFI grâce à vous, grâce à votre témoignage. Vous aviez d'ailleurs fait un reportage qui a été diffusé à 2 reprises sur RFI. On espère que, en parlant comme ça, la communauté internationale va s'intéresser aussi aux habitants de cette vallée et pas simplement aux dangers potentiels qu'elle représente. Camille Magnard et Mathilde Goenec, merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Les visiteurs du jour reviennent dans 10 minutes.